Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal, suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter l'histoire d'aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. La revue suivante est le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Indonésie à Jakarta, les informations. L'Institut national de résilience, l'EMANAS, a inauguré le laboratoire de sondage. L'Indonésie renforce la coopération extérieure avec les pays partenaires de dialogue. Et le musée islamique de Jakarta sera rempli des œuvres de l'islam de Leiden. Veuillez donc écouter les informations. L'Institut national de résilience, l'EMHANAS, a inauguré le laboratoire de sondage à l'EMHANAS mercredi à Jakarta. Le gouverneur de l'EMHANAS, Agus Wijoyo, aux médias, a déclaré que l'inauguration du laboratoire de sondage est souhaitée puisse connaître les conseils ou les idées constructives des gens au gouvernement. Le laboratoire de sondage possède la fonction pour être en mesure de détecter les pensées, tout ce qui existe dans le public, afin qu'il puisse être enregistré par les institutions compétentes, de sorte qu'il pourrait être enregistré par les institutions compétentes concernées par les opinions. Voilà l'essence. L'inscription dépend de l'objet et la fonction de l'institution. Il est populairement connu comme l'interrogation connexe à l'élection générale. Selon le gouverneur de l'EMHANAS, Agus Wijoyo, à travers le laboratoire de sondage, l'EMHANAS peut enregistrer ce que développer dans l'esprit des gens. Ainsi, il peut être connu le soutien public aux réglementations qui sont réalisées et décidées par le gouvernement ou dans le but de préparer la politique du gouvernement à l'avenir. L'Indonésie et la Thaïlande doivent renforcer la coopération dans l'intelligence, ont devenu les victimes du terrorisme. Par conséquent, il faut renforcer la coopération de l'intelligence dans le traitement des terroristes. Cela a été transmis par le commandant de l'armée nationale de l'Indonésie, TNI, le général Gatot Nurmantio, lors de la visite de son homologue de la Thaïlande, le général Surapong Suanaat, au quartier général de l'armée nationale indonésienne Cilangkap, mercredi. Le commandant de TNI a déclaré que, dans les conditions actuelles, l'Indonésie et la Thaïlande devraient renforcer des relations de coopération, notamment les forces armées. Concernant la coopération intelligence, dans le traitement des actes terroristes, le commandant des forces armées de la Thaïlande a déclaré qu'il était prêt à accepter et améliorer la coopération entre les deux forces armées, telles que l'armée de terre, la marine et la force aérienne, y compris l'opération de lutte contre le terrorisme, les opérations de maintien de la paix et le partage des informations de renseignement. L'Indonésie renforce la coopération extérieure avec les pays partenaires de dialogue. L'un des objectifs de l'Indonésie et de l'ASEAN, en particulier en 2017, est de renforcer la coopération extérieure avec les pays partenaires de dialogue. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère indonésien des Affaires étrangères, José Tavares, a déclaré qu'en 2017, il y avait des attentions de l'Indonésie dans le cadre de l'ASEAN pour renforcer la coopération extérieure. à savoir de tenir des discussions avec la République populaire de Chine sur l'engagement de maintenir la paix dans la mer de Chine méridionale et de commencer la coopération avec l'Allemagne en tant que partenaire de développement. Cela a été dit par José Tavares, cité par l'agence de presse de la Radio Nationale à Jakarta, mercredi. Jusqu'à présent, la coopération extérieure avait l'impact positif sur l'ASEAN, y compris l'Indonésie, où les pays partenaires de dialogue non seulement allouaient de nouveaux fonds, mais aussi de fournir une assistance et participer par des experts afin de participer également à la mise en œuvre du programme étant proposé précédemment. Au moins, il y a 11 pays de partenaires de dialogue, à savoir les États-Unis, l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, le Canada, la République de Corée, la Russie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et le Programme de développement des Nations unies, PNUD, y compris 3 pays partenaires supplémentaires sectoriels que le Pakistan, la Norvège et la Suisse. Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours à l'écoute des informations de la Voix de l'Indonésie. Le ministère du village, le développement des zones défavorisées et la transmigration optimisent le système du village de l'application sera réalisé. Le ministère du village, le développement des zones défavorisées et la transmigration est optimiste sur la mise en œuvre de village d'application. Selon le chef de l'éducation et de la formation du ministère du village, du développement des zones défavorisées et la transmigration, Mohamed Nourdine, le village d'application aidera rapidement dans la communication et l'évaluation au gouvernement central, y compris la surveillance. Parce qu'il est nécessaire, la chose importante est de répondre aux problèmes dans le village qui sont demandés aux responsables du village. Cela a été dit par Mohamed Nourdine à Radio République Indonésia mercredi. Et l'Indonésie comprend 74 000 villages et 77% d'entre eux sont déjà connectés au réseau d'Internet. Selon lui, le village qui est relié à Internet peut utiliser le réseau pour l'apprentissage des plaintes et de l'administration financière du village. Le musée islamique Jakarta sera rempli des œuvres de l'islam de Leiden. Le gouvernement provincial de Jakarta a l'intention de construire le musée islamique à Jakarta. Selon le responsable de Jakarta Islamic Center, Ahmad Juhandi, il estime qu'il n'y a pas encore de personne qui a eu enregistré l'histoire de l'islam, notamment l'islam à Jakarta, depuis cette religion est entrée à Jakarta, jusqu'aujourd'hui. Le musée islamique Jakarta sera rempli par les objets historiques de l'université de Leiden. Les œuvres sont ceux d'Al-Habib Ousmane bin Yahya dans l'ère de Batavie coloniale avant l'indépendance. Il a été dit par Ahmad Juhandi à republica.co.id récemment. Les collections qui seront exposées peut-être sont des répliques de l'œuvre originale. Car si les œuvres originales qui sont données, il sera les affaires du gouvernement à gouvernement ou le gouvernement central. En outre, il a détecté quelques œuvres des ulémas de Batavie qui sont encore conservées par ses descendants. Lorsque le musée est inauguré, Ahmad a dit qu'il confierait le soutien des descendants d'Ulema Batavi à Jakarta Islamic Center. Notre dernière information, le président du conseil exécutif régional de l'Association indonésienne des hôtels et des restaurants de la province Bengkulu, Sonny Adnan, a estimé que l'étape de la promotion est une chose principale à faire Bengkulu comme destination touristique régionale, nationale et internationale. Il a reconnu que le segment de marché de Bengkulu est encore faible et inférieur à celle des régions voisines. En fait, lorsqu'il est vu du potentiel des ressources naturelles, en particulier dans le domaine du tourisme, Bengkulu n'est pas inférieur. Il a été annoncé par Sonny Adnan à Bengkulu récemment. Selon Sonny Adnan, des mesures de promotion prises par le gouvernement local en impliquant le secteur privé, en particulier dans le monde de l'hôtellerie et des restaurants jusqu'à l'île de Java, vont augmenter les visites touristiques de la communauté en dehors de Bengkulu. Il a ajouté que les mesures de promotion nécessitaient un processus et de financement, y compris la garantie de la connectivité de Bengkulu avec d'autres régions, en particulier dans les domaines de transport. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie. Auditeurs et auditrices, veuillez donc écouter notre commentaire aujourd'hui, l'accélération de la licence de l'investissement d'énergie. La politique du deuxième package économique publié par le gouvernement de Joko Widodo le 29 septembre 2015, liée à la déréglementation et la débureaucratisation, est destinée à faciliter l'investissement. La pénétration est sous forme d'une licence d'investissement dans 3 heures dans une zone industrielle. En obtenant cette autorisation, l'investisseur peut directement mener des activités. Le service rapide de licence de 3 heures pour l'infrastructure du secteur de l'énergie et des ressources minérales est lancé par l'Agence de coordination des investissements BKPM conjointement avec le ministère de l'énergie et des ressources minérales. Le programme appelé comme service ESDM 3G comprend 9 licences comprenant une licence d'électrique et 8 licences de pétrole et de gaz. Les services seront fournis si la société a qualifié administrativement et techniquement, conformément au règlement du ministère de l'énergie et des ressources minérales numéro 15 l'an 2016. La facilité ESDM 3G fait partie du service intégré de guichet unique central de BKPM et seront détenus par le mécanisme de la présente, soumettre, attendre et recevoir. Précédemment, le service de la licence d'investissement énergétique prend habituellement 20 à 40 jours ouvrables. Avec le programme de service ESDM 3G, la licence d'exploitation temporaire pourrait être accélérée à 3 heures, de sorte que le projet d'investissement prévu peut immédiatement être construit. Les entreprises doivent également répondre à toutes les exigences. Le chef de l'Agence de coordination d'investissement BKPM, Thomas Lembong, a dit alors que les autorisations déjà délivrées peuvent être révoquées s'il n'y a aucune infraction connue ou ne peut pas répondre aux exigences qui ont été déterminées. Entre autres, les investisseurs devraient venir directement en portant l'organigramme du processus de la production avec un capital investi au moins 100 milliards de roupias et le projet est en mesure d'absorber au moins 1000 main-d'œuvre indonésiens. Dans ce permis d'investissement de 3 heures, les investisseurs recevront 3 lois, à savoir la licence d'investissement, l'acte d'établissement de l'entreprise et le numéro d'identification fiscale. Mais spécialement pour la construction de la fonderie, la licence d'investissement énergétique provisoire n'est pas valable, car elle implique un certain nombre de choses importantes, y compris l'évaluation de l'impact environnemental. La facilité de l'accélération de la licence de l'investissement est souhaitée d'être capable d'encourager la contribution du secteur de l'énergie et des ressources minérales jusqu'à 50% de l'investissement total étant versé par les entrepreneurs en Indonésie. Sur la base des données de BKPM, la réalisation d'investissements dans le secteur de l'énergie et des ressources minérales qui est en dehors de l'amont pétrolier et gazier en 2016 était 95,7 trillions de roupias. La BKPM cible la contribution du secteur de l'énergie à l'investissement total national pour atteindre 20% à 50% de 2017 à 2018. Cette année, la réalisation de l'investissement de tous les secteurs devrait atteindre 678,8 trillions de roupias, y compris le secteur de l'énergie. Le service ESDM 3G devrait attirer plus d'investisseurs à l'Indonésie de sorte que la cible réalisation de l'investissement peut être réalisée. C'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 février, la Journée mondiale des zones humides. La Journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides le 2 février 1971 dans la ville de Ramsar, située sur la côte de la mer Caspienne en Iran. La Journée mondiale des zones humides a été célébrée pour la première fois en 1997. La Convention de Ramsar est tenue dans le but de soutenir la conservation et l'utilisation durable des zones humides. Cela est causé par la diminution des zones humides du monde à la suite du processus de transformation en zones incorrectes. Dans la Convention de Ramsar, les zones humides sont connues comme des zones saumâtres, marais ou marécageuses, la toubre ou les eaux, soit naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires avec les eaux stagnantes ou courantes, douces, saumâtres ou salées, y compris les zones de eaux marines dont la profondeur ne dépassant pas 6 mètres à marée basse. L'Indonésie a ratifié la Convention de Ramsar par le décret présidentiel 48 en 1991. Ainsi, le gouvernement indonésien devrait donner un engagement à protéger et à promouvoir les zones humides comme stipulé dans l'accord. Le 2 février 1987, l'adoption par le référendum d'une nouvelle constitution aux Philippines. La formation de la nouvelle constitution philippine a été précédée par la révolution de Edsa, Epifanio de Los Santos Avenue, c'est le nom d'une rue de la capitale de Manille. Cette révolution a été marquée par la manifestation de masse non violente aux Philippines en 1986. La manifestation pacifique à 4 jours menée par des millions de personnes des Philippines à Metro Manila ont mis fin au régime autoritaire du président Ferdinand Marcos et la nomination de Corazon Aquino en tant que présidente. Cette constitution inspirée de la constitution des États-Unis qui est fortement influencée la constitution 1935, le droit romain, anglais et espagnol. La nouvelle constitution philippine limite le pouvoir du président contre un régime autoritaire. Le 2 février 1950, l'université indonésie qui a été nommée Universiteit Indonesië a commencé ses activités. Après l'indépendance de l'Indonésie, déclarée le 17 août 1945, le Conseil de l'enseignement supérieur de la République de l'Indonésie a été établi à Jakarta. Le 21 juin 1946, le gouvernement provisoire des Pays-Bas en Indonésie, NICA, a établi une autre université ou l'université provisoire à Jakarta. Le 21 mars 1947, le nom de notre université a été changé d'être Université van Indonésie. Enfin, après Jakarta a été repris, le gouvernement renvoie l'agence de l'enseignement supérieur de la République d'Indonésie à Jakarta. Elle est combinée avec Université van Indonésie et lui a donné un nouveau nom, Université Indonesia. Université Indonesia a commencé ses activités formellement le 2 février 1950 avec le premier recteur, M. Panji Surahman Cokroadisuryo. En 1955, l'Université d'Indonésie a officiellement changé le nom à l'Université d'Indonésie.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Le président Joko Widodo a rappelé qu'il faut avoir le courage pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN. Dans une série d'une visite de travail à la région spéciale de Yogyakarta et le centre de Java, jeudi 27 janvier, le président Joko Widodo a visité le lycée Taruna Nusantara, situé dans les régions de Magelang, Java centrale. À cette occasion, le président a rappelé que dans l'ère de l'ouverture, la concurrence entre les pays et parmi les ressources humaines sera intense et féroce. La région de l'ASEAN a déjà appliqué la communauté économique de l'ASEAN et ne peut pas être empêchée. Selon le président, l'ouverture est déjà entre les régions pour être dans la région de l'ASEAN et l'Union européenne. Nous sommes libres de sortir et entrer. Ne pas porter une carte d'identité, ne pas utiliser un passeport. Cela veut dire que l'Indonésie doit être prête non seulement d'être intelligent, mais aussi on a besoin du courage de la concurrence. Selon le président, actuellement l'occupation d'un État n'est plus un contrôle du territoire, mais le contrôle des ressources naturelles et des ressources économiques. Dans l'avenir, il n'est plus de la guerre physique, mais la guerre de la culture. Aujourd'hui, est la guerre de l'information qui fait d'un pays devient faible en raison d'une perception. Ce qui sera construit à l'avenir, non pas les enfants qui sont gâtés, mais les enfants qui sont prêts à se battre en compétition avec n'importe qui. Le président demande aux étudiants du lycée de Taruna Nusantara de ne pas avoir peur. L'Indonésie doit être optimiste pour gagner la compétition parce que ce pays se sent préparé. Chers amis, c'est à la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Institut national de résilience, l'EMHANAS, a inauguré le laboratoire de sondage à l'EMHANAS mercredi à Jakarta. Le gouverneur de l'EMHANAS, Agus Wijoyo, aux médias, a déclaré que l'inauguration du laboratoire de sondage est souhaitée puisse connaître les conseils ou les idées constructives des gens au gouvernement. Le laboratoire de sondage possède la fonction pour être en mesure de détecter les pensées, tout ce qui existe dans le public, afin qu'il puisse être enregistré par les institutions compétentes, de sorte qu'il pourrait être enregistré par les institutions compétentes concernées par les opinions. Voilà l'essence. L'inscription dépend de l'objet et la fonction de l'institution. Il est populairement connu comme l'interrogation connexe à l'élection générale. Selon le gouverneur de l'EMHANAS, Agus Wijoyo, à travers le laboratoire de sondage, l'EMHANAS peut enregistrer ce que développer dans l'esprit des gens. Ainsi, il peut être connu le soutien public aux réglementations qui sont réalisées et décidées par le gouvernement ou dans le but de préparer la politique du gouvernement à l'avenir. L'Indonésie et la Thaïlande doivent renforcer la coopération dans l'intelligence, ont devenu les victimes du terrorisme. Par conséquent, il faut renforcer la coopération de l'intelligence dans le traitement des terroristes. Cela a été transmis par le commandant de l'armée nationale de l'Indonésie, TNI, le général Gatot Nurmantio, lors de la visite de son homologue de la Thaïlande, le général Surapong Suanaat, au quartier général de l'armée nationale indonésienne Cilangkap. Mercredi. Le commandant de TNI a déclaré que, dans les conditions actuelles, l'Indonésie et la Thaïlande devraient renforcer des relations de coopération, notamment les forces armées. Concernant la coopération intelligence, dans le traitement des actes terroristes, le commandant des forces armées de la Thaïlande a déclaré qu'il était prêt à accepter et améliorer la coopération entre les deux forces armées, telles que l'armée de terre, la marine et la force aérienne, y compris l'opération de lutte contre le terrorisme, les opérations de maintien de la paix et le partage des informations de renseignement. L'Indonésie renforce la coopération extérieure avec les pays partenaires de dialogue. L'un des objectifs de l'Indonésie et de l'ASEAN, en particulier en 2017, est de renforcer la coopération extérieure avec les pays partenaires de dialogue. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère indonésien des Affaires étrangères, José Tavares a déclaré qu'en 2017, il y avait des attentions de l'Indonésie dans le cadre de l'ASEAN pour renforcer la coopération extérieure, à savoir de tenir des discussions avec la République populaire de Chine sur l'engagement de maintenir la paix dans la mer de Chine méridionale et de commencer la coopération avec l'Allemagne en tant que partenaire de développement. Cela a été cité Pendant cela a été dit par José Tavares, cité par l'agence de presse de la Radio Nationale à Jakarta, mercredi. Jusqu'à présent, la coopération extérieure avait l'impact positif sur l'ASEAN, y compris l'Indonésie, où les pays partenaires de dialogue non seulement allouaient de nouveaux fonds, mais aussi de fournir une assistance et participer par des experts afin de participer également à la mise en œuvre du programme étant proposé précédemment. Au moins, il y a 11 pays de partenaires de dialogue, à savoir les États-Unis, l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, le Canada, la République de Corée, la Russie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et le Programme de développement des Nations unies, PNUD, y compris 3 pays partenaires supplémentaires sectoriels que le Pakistan, la Norvège et la Suisse. Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours à l'écoute des informations de la Voix de l'Indonésie. Le ministère du village, le développement des zones défavorisées et la transmigration optimise le système du village de l'application sera réalisé. Le ministère du village, le développement des zones défavorisées et la transmigration est optimiste sur la mise en œuvre de village d'application. Selon le chef de l'éducation et de la formation du ministère du village, du développement des zones défavorisées et la transmigration, Mohamed Nourdine, le village d'application aidera rapidement dans la communication et l'évaluation au gouvernement central, y compris la surveillance. Parce qu'il est nécessaire, la chose importante est de répondre aux problèmes dans le village qui sont demandés aux responsables du village. Cela a été dit par Mohamed Nourdine à Radio République Indonésia mercredi. Et l'Indonésie comprend 74 000 villages et 77% d'entre eux sont déjà connectés au réseau d'Internet. Selon lui, le village qui est relié à Internet peut utiliser le réseau pour l'apprentissage des plaintes et de l'administration financière du village. Le musée islamique Jakarta sera rempli des œuvres de l'islam de Leiden. Le gouvernement provincial de Jakarta a l'intention de construire le musée islamique à Jakarta. Selon le responsable de Jakarta Islamic Center, Ahmad Juhandi, il estime qu'il n'y a pas encore de personne qui a eu à enregistrer l'histoire de l'islam, notamment l'islam à Jakarta, depuis cette religion est entrée à Jakarta, jusqu'aujourd'hui. Le musée islamique Jakarta sera rempli par les objets historiques de l'université de Leiden. Les œuvres sont ceux d'Al-Habib Ousmane bin Yahya dans l'ère de Batavie coloniale avant l'indépendance. Il a été dit par Ahmad Juhandi à republica.co.id récemment. Les collections qui seront exposées peut-être sont des répliques de l'œuvre originale. Car si les œuvres originales qui sont données, il sera les affaires du gouvernement à gouvernement ou le gouvernement central. En outre, il a détecté quelques œuvres des ulémas de Batavie qui sont encore conservées par ses descendants. Lorsque le musée est inauguré, Ahmad a dit qu'il confierait le soutien des descendants d'Ulema Batavi à Jakarta Islamic Center. Notre dernière information, le président du conseil exécutif régional de l'Association indonésienne des hôtels et des restaurants de la province Bengkulu, Sonny Adnan, a estimé que l'étape de la promotion est une chose principale à faire Bengkulu comme destination touristique régionale, nationale et internationale. Il a reconnu le segment de marché de Bengkulu est encore faible et inférieur à celle des régions voisines. En fait, lorsqu'il est vu du potentiel des ressources naturelles, en particulier dans le domaine du tourisme, Bengkulu n'est pas inférieur. Il a été annoncé par Sonny Adnan à Bengkulu récemment. Selon Sonny Adnan, des mesures de promotion prises par le gouvernement local en impliquant le secteur privé, en particulier dans le monde de l'hôtellerie et des restaurants jusqu'à l'île de Java, vont augmenter les visites touristiques de la communauté en dehors de Bengkulu. Il a ajouté que les mesures de promotion nécessitaient un processus et de financement, y compris la garantie de la connectivité de Bengkulu avec d'autres régions, en particulier dans les domaines de transport. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique quotidienne, le magazine culturel. Cette fois, nous allons présenter une boisson typique des Moluques. Chaque région en Indonésie possède des cuisines typiques, mais quelquefois, on trouve un type de cuisine similaire avec le nom différent, avec légère différence dans les matières premières. Comme par exemple à l'île de Java, il y a des boissons de bandrek et wedang rondé, l'ingrédient à base est l'eau de gingembre. Ces boissons sont également connues dans les Moluques, mais les gens de cette région appellent cette boisson Guraga ou air Guraga. Le Guraga est fait de gingembre rousse, le sucre de coco et la noix de canarium pour faire l'eau de Guraku. D'abord, le gingembre rousse est nettoyé, coupé en morceaux et ensuite il est bouilli avec du sucre en palme et le feuille de pandanus. Une fois cuit, l'eau de gingembre est versée dans un verre et puis saupoudrée de morceaux de noix de canarium. Pour les gens des Moluques, notamment du nord Halmahera, la noix de canarium est très bien connue dans la vie quotidienne. Beaucoup de cuisines traditionnelles locales qui utilisent cette noix. Une fois que l'obus Guraga est prête à boire. La saveur épicée, sucrée et chaude de gingembre se sent dans la gorge. Pour que l'eau de Guraga soit meilleure, ajoutez le lait. Le Guraga est l'excellente boisson pour les habitants des Moluques, surtout du nord de Halmahera. Quand ils détendent dans l'après-midi, ils préparent aussi les bananes frites. On utilise les bananes de Moluk bebek ou bananes de bouche de canard. Les bananes poussent seulement dans la région de nord de Halmahera, surtout à Tobelo. Pour faire les bananes frites, elles sont coupées transversalement et ensuite frites dans l'huile chaude, saupoudrées avec le mélange de la saumure et de l'eau carambole d'une cuillère à soupe. Les bananes continuent à frire jusqu'à ce que complètement croustillant, ça forme comme un chip de banane. L'eau de Guraga a ses propres avantages. Elle peut réchauffer le corps pour fondre la graisse est approprié pour ceux qui suivent un régime amaigrissant. Cette boisson traditionnelle se trouve dans diverses régions au Moluques et d'habitude, cette boisson est vendue pendant la nuit. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure la rubrique magazine culturel intitulée Une boisson typique des Moluques. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur. Chers amis, si vous voulez visiter la ville de Bandung, Java West, en novembre, vous ne retrouverez plus des boîtes ou des bols de styromousse comme conteneurs de nourriture. Pourquoi? Parce que la ville de Bandung interdit l'utilisation de polystyrène comme récipient pour les aliments. L'utilisation de mousse de polystyrène pour l'emballage ou conteneur de nourriture, c'est aussi n'est pas une nouvelle chose. En fait, le danger se casse. Quel danger et comment il est arrivé? Lié au danger posé par styromousse, le maire de Bandung, M. Ridwan Kamil, a interdit l'utilisation de styromousse dans la ville de Bandung comme un récipient de nourriture. Cette interdiction a été basée sur l'expérience de Ridwan Kamil lorsqu'il a regardé les rivières de Bandung couvertes de déchets de styromousse pour causer des inondations. Les réglementations d'interdiction de l'utilisation de la mousse de polystyrène entrent en vigueur le 1er novembre 2016. L'interdiction sous forme de cette circulaire sera appliquée progressivement à la destination de certaines régions comme Pionnier. Ces plans d'interdiction révélés par le maire Ridwan Kamil dans les commentaires dans leur compte de médias sociaux le mercredi 12 octobre 2016. Il faisait un simple coup de pouce. Apparemment, l'affirmation du maire obtient immédiatement des commentaires et des réponses positives de ses disciplines. Et espérant que d'autres villes suivent les traces de Bandung en Indonésie, interdisent l'utilisation de mousse de polystyrène comme récipient pour les aliments. L'utilisation de styromousse a été interdite dans un certain nombre de grandes villes du monde, comme Londres, New York. En Indonésie, Bandung sera la première ville à l'appliquer. Styrofoam est fait à partir de granulés de styrène qui sont traités en utilisant benzana. Benzana sont des produits chimiques nocifs pour la santé lorsqu'ils sont entrés dans le corps humain. Ces produits chimiques sont entrés dans le corps humain à cause des températures élevées. La migration des produits chimiques dans le styromousse est plus vite dans les alimentations. De plus, si l'aliment contient des matières grasses. En outre, la styrofoam n'est pas respectueuse de l'environnement car elle ne peut pas décomposer par la nature. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter un chanteur de dangdut, Ona Sutra. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « Terbayang-bayang ». Bonne écoute.
Nostalgia. terbayang-bayang di mata, tak luput dari janji sehidup semati. Gunung tinggi kan kita daki, lautan luas kita seberangi. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari
cerita, vous venez d'écouter la chanson d'Ona Sutra intitulée Terbayang-bayang. Cette chanson, composée par Ona Sutra, raconte le cœur brisé, lancé en 1990. La chanson était si populaire à son époque. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante d'Ona Sutra, intitulé « Assam di Gunung, Garam di Laut ». Bonne écoute.
Agar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hati, ingin
rasanya ku bawa lari.
Le succès avec l'album en toutes les terres bayang-bayang, on a souhaité à ensuite publier un deuxième album avec le hit intitulé Assam di Gunung Garam di Laut. Grâce à cette chanson, on a souhaité être plus célèbre dans l'industrie musicale dans le pays. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Nasutra intitulées Barcelona et Bal. Bonne écoute et à bientôt!
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Et si ça termine l'émission pour aujourd'hui, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.